à présent...
Frédéric Worms.
À présent, une émission qui se propose de rechercher le sens réel du moment présent, ce qui définit notre présent, ce qui fait histoire, ce qui fait époque, mais aussi, comme lorsqu'on s'exclame « et à présent », savoir comment y répondre, savoir comment agir. Pour cela, il faut un peu de recul. Mais dans cette première émission de cette série « à présent », nous allons commencer par le plus difficile, puisque l'un des traits fondamentaux du moment présent, celui qui nous frappe tous, c'est justement son incertitude, liée notamment à la pandémie. Tous les moments présents est toujours incertain. On se repère dans la confusion, comme Fabrice dans la bataille de Waterloo, mais il semble qu'aujourd'hui, l'incertitude ne soit pas simplement un trait parmi d'autres du moment présent, mais peut-être ce qui le définit. Peut-on se réorienter à partir de l'incertitude? Comment cette incertitude liée à la pandémie nous délivre-t-elle paradoxalement le sens du présent? Nous allons en parler aujourd'hui avec François Hartog, historien, spécialiste du temps, et Catherine Malabou, philosophe spécialiste du vivant. À présent, donc, s'orienter dans l'incertitude liée au vivant et au temps, avec François Hartog, qui va publier bientôt chez Gallimard un livre intitulé « Chronos », l'Occident aux prises avec le temps, et Catherine Malabou, spécialiste du vivant, qui va publier bientôt chez Rivage un livre sur le plaisir féminin, intitulé « Le plaisir effacé ». Bonsoir à tous les deux qui sont à distance, Catherine Malabou et François Hartog. Je voulais d'abord vous demander, François Hartog, si vous étiez d'accord avec ce diagnostic, à savoir que le présent, que vous avez beaucoup étudié comme nouveau rapport à l'histoire, notre moment présent qui se vit comme toujours présent, toujours différent, toujours nouveau. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée, le diagnostic, selon lequel plus que jamais, depuis quelque temps, dans la pandémie en particulier, il est aggravé par cette expérience de l'incertitude, l'incertitude jusque dans la science, l'incertitude jusque dans la politique, l'incertitude chaque jour et chaque matin. François Hartog.
Oui, bonsoir Frédéric Worms.
Bonsoir.
Oui, pour moi, il est bien clair que le présent dans lequel nous étions avant la survenue de l'épidémie, de la pandémie, était déjà extrêmement problématique, extrêmement confus et tout plein de désorientation. Mmh. Et la pandémie est venue ajouter de la confusion à la désorientation ou de désorientation supplémentaire dans la confusion. Parce que, vous l'évoquiez à l'instant, tous les registres, au fond, de la vie commune, de notre vie aussi bien individuelle que collective, tous les registres ont été affectés, sont affectés par la survenue imprévue, sinon imprévisible, de ce virus.
Et en plus, et François Hartog, on peut dire non seulement cette survenue imprévue, mais un changement constant de diagnostic. À un moment, c'est une épidémie qui semble mortelle pour tout le monde, il faut tout empêcher. À un autre moment, on pense qu'on la contient et on peut sortir. On est maintenant dans une période intermédiaire et justement incertaine. Il y a aussi, en outre, ce changement constant. Chaque matin, vous parliez dans vos textes sur le présent de ce présentisme. Aujourd'hui, on est dans l'instantanéisme, en quelque sorte.
Oui, parce que le présent était lui-même, avant cela, extrêmement multiple, conflictuel, contradictoire, selon la position que vous occupez dans la société. Vous ne vivez pas le même présent, vous utilisez les mêmes téléphones portables, mais vous ne vivez pas dans le même présent. Là est survenu, avec le Covid, un temps nouveau.
Que vous caractériseriez comment, avant de demander à Catherine Malabou ce qu'elle en pense aussi dans un instant?
Bien sûr. Le temps, il y a le temps propre du virus, qu'on ne connaît pas, puisqu'il est arrivé, on ne sait pas ce qu'il va devenir, combien de temps il va se promener, sous quelle forme, etc. Donc il y a un temps propre du virus. Et aussitôt que le virus est entré en action, que ce temps du virus s'est mis en marche, il y a eu un temps médical. Oui. Qui a essayé de saisir justement le temps du virus pour l'appréhender, le nommer, le rythmer, lui reconnaître des phases. Bref, ce que font les médecins depuis toujours, c'est-à-dire observer des périodes, les jours critiques, enfin toute cette médecine depuis Hippocrate. Mm-hmm. Et puis Vous avez eu alors un troisième temps qui est survenu tout à fait inédit, qui a été le temps du confinement, qui est une suspension du temps.
Qui est un temps social ou politique.
Oui, mais qui est une suspension du temps. Et donc une espèce de présent qui, là aussi, chaque jour, c'est le même jour, et en même temps, chaque jour, c'est un nouveau jour. Et c'est très difficile à vivre, nous l'avons vu. Donc, il faut introduire ces trois temporalités nouvelles dans les temporalités déjà complexes du présent que j'appelle présentiste.
Mais alors, justement, Catherine Malabou, vous-même, vous réfléchissez au sens du présent à votre manière depuis toujours, en vous inspirant aussi de traditions philosophiques précises, mais vous aviez fait le diagnostic que pour notre condition nouvelle, au fond, était liée à notre condition de vivant. Et ce que vient de dire François Hartog, à savoir que finalement, il y a un temps du virus qui s'est imposé en premier, bien sûr, ça ajoute à la confusion, mais en même temps, est-ce que ça ne confirme pas quand même notre condition? Est-ce que ça ne confirme pas votre diagnostic? Est-ce que ça ne remet pas un peu d'ordre ou de priorité dans le chaos des événements, paradoxalement, Catherine Malabou?
Oui, bonsoir Frédéric Vaux.
Bonsoir à vous.
Écoutez, je, bien sûr, tout ce que dit François est très intéressant, mais avant de parler du virus, j'aimerais faire une petite remarque sur la notion de présent.
Oui.
Moi, j'ai beaucoup de mal avec ce concept. Je suis très contente qu'on en parle parce que, effectivement, je trouve qu'il est très difficile à appréhender. Philosophiquement, on sait, par exemple, qu'il a toute une histoire, paradoxalement, et une histoire qui est très récente. C'est-à-dire, le concept de présent en philosophie, il date à peu près du XVIIIe siècle. Le présent entendu comme actualité. Traditionnellement, on parlait de l'instant, du maintenant, c'est-à-dire ce qui n'est pas encore futur et ce qui n'est plus, mais au sens d'un moment fugace. Le concept de présent est très difficile parce que, bien sûr, à la fois, il renvoie au maintenant, mais en même temps, il renvoie à autre chose. Il nous demande de penser, dans l'instant, quelque chose comme une histoire. Et c'est cette contradiction de penser tout le temps à partir d'un instant qui est très difficile.
Au fond, Catherine Malabou, là, vous commencez tout de suite par la question de la philosophie du présent. Je vous avais proposé des textes et justement, vous citiez un texte de Michel Foucault sur le présent qui explique que, certes, le présent, c'est dans la philosophie du temps, c'est classique, c'est le moment qui n'est ni passé ni futur, mais dans la philosophie de l'histoire, justement, d'habitude, on le situe par rapport à un horizon à venir, un destin, ou bien par rapport à une origine. Et la condition moderne, vous dites justement le XVIIIe siècle, c'est de comprendre le présent, j'allais dire, presque tout seul.
C'est-à-dire...
Quelle différence? Le présent à partir d'une différence, simplement d'une nouveauté.
Voilà. Et c'est-à-dire, là, on passerait du concept de présent à celui d'aujourd'hui.
Aujourd'hui,
c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, ce que vous nous demandez de penser, j'ai l'impression, Frédéric, c'est aujourd'hui plus que le présent. Parce que ce que vous demandez, ça va beaucoup plus loin qu'un simple moment, quoi, qu'une réflexion instantanée, spontanée. Et comme disait François, cette temporalité du virus, elle est précisément intéressante parce que elle ne se réduit pas à un moment. Elle se montre aujourd'hui, mais aujourd'hui, dès qu'on en parle, on s'aperçoit qu'en fait, ce virus, il se préparait hier, puisqu'on nous dit qu'il y a déjà eu des alertes, etc., etc., et il y en aura d'autres demain. Donc, on est avec lui en plein dans la question de l'aujourd'hui, qui ne se réduit pas à un moment. Voilà, donc je voulais dire que tout ça, ça me paraît très très complexe.
Oui, mais justement, Catherine Malabou, avant de revenir sur le présent et la réflexion sur le temps que l'historien qu'est François Hartog éclaire aussi de son côté, est-ce que quand même le fait que ce soit un virus, tout simplement, ne vient pas confirmer votre hypothèse sur le moment présent en général, à savoir que, disons, jusqu'aux années 2000, aux 90-2000, on se pensait comme des sujets historiques n'appartenant pas à la nature, et puis tout à coup, avec le cerveau sur lequel vous avez beaucoup travaillé, avec le climat, on se retrouve être des vivants. Est-ce que le virus au moins ne confirme pas ce diagnostic-là sur quand même l'époque?
Oui, alors effectivement, si après on se tourne vers ce que j'ai essayé de penser moi comme sous le terme de aujourd'hui ou de présent, en effet, j'avais remarqué avec les maladies cérébrales que, enfin j'avais lu des études montrant que les patients souffrant de traumatismes cérébraux et les personnes souffrant de traumatismes sociaux ou de catastrophes naturelles présentaient les mêmes lésions, les mêmes attitudes pathologiques, c'est-à-dire que les malades et les blessés sociaux avaient les mêmes comportements. Indifférence émotionnelle, froideur, sidération, etc. Et j'ai élaboré l'idée que peut-être ce qui se passait précisément dans notre aujourd'hui, c'était l'impossibilité de faire la différence entre le purement biologique, c'est-à-dire le trauma, l'accident, et le purement politique ou le purement social. Et on voit bien aujourd'hui avec ce virus qu'il est bien difficile de séparer la maladie, la pathologie de la politique et du social. Ce virus, en fait, on ne sait, enfin moi c'est comme ça que je le vois aujourd'hui, on ne sait pas s'il est seulement naturel ou s'il est aussi politique, puisque tout d'un coup on remet en cause tous nos modes de vie.
Alors, malgré tout, quand même, bien sûr, il y a cette dimension, ces temps que distinguait François Hartog. Justement, François Hartog, vous distinguiez trois temps, le temps du virus, le temps médical, le temps politique, parce que c'était déjà une façon d'ordonner les choses. Moi, je la reprenais un peu spontanément. Mais Catherine Malabou nous dit qu'au fond, ils sont tous simultanés et que notre condition, peut-être que paradoxalement, elle est plus proche de votre diagnostic que je ne pensais, François Hartog, parce que finalement, notre condition, ce serait d'être soumis à des chocs qui sont indiscernablement biologiques, politiques, historiques, mais qui nous désorientent finalement. François Hartog, est-ce que pour vous, il y a d'abord cette sorte de sidération, comme vient de le rappeler Catherine Malabou, cette sorte d'expérience un peu traumatique du temps qui est la nôtre aujourd'hui?
Oui, assurément. Et ces trois temps, si on garde cette commodité que j'ai proposée, ils sont à la fois simultanés, mais n'ont pas le même rythme. Mmh. Ce n'est pas le même. Donc il y a des décalages dans la marche de ces temps-là. Et ces décalages sont source, évidemment, d'incertitudes, ou accroissent, ou sont ressentis, vécus comme des façons d'accroître encore l'incertitude dans laquelle nous nous trouvons. Puisque le temps du virus, en effet, on cherche à avoir une prise sur lui, mais on en a guère. Le temps médical cherche aussi à, dans ses archives, si on peut trouver des cas qui renverraient, qui donneraient des possibilités d'imaginer la courbe, etc.
Et puis il faut faire des expérimentations aussi, voilà. C'est le temps de la recherche.
Bien sûr. Et le temps du confinement, donc là, ça c'est quelque chose de totalement inédit, qui a quand même mis à l'arrêt la plus grande partie du monde, ce qui n'était jamais arrivé. Bon, sans qu'on sache justement quels vont être les effets à long terme de cet arrêt qui lui-même entraîne toute une série de crises dans lesquelles nous nous trouvons. Et donc l'extrême difficulté, c'est cela. Et j'ajouterais, pour poursuivre un peu ce que disait Catherine Malabou il y a un instant, ces temps-là, ces présents multiples, rencontrent aussi ce qu'on appelle de manière maintenant commune le temps de l'Anthropocène, c'est-à-dire cette rencontre avec des temporalités, celles qui sont celles liées au système de la Terre et au poids, au rôle de l'espèce humaine comme force géologique, rencontre ce présent, rencontre ces temporalités, oui, qui ont qui sont du temps ordinaire, du simple temps, mais dans des échelles, selon des échelles qui sont proprement incommensurables avec celles que nous avons domestiquées, celles que nous avons fabriquées à notre usage, ce qu'on a appelé le temps du monde. Alors c'est ça apporte encore, je crois, une forte dose de désorientation, d'inquiétude et même d'affolement.
Donc ce que vous dites finalement, François Hartog, et ça rejoint ce que disait Catherine Malabou, c'est qu'il y a un télescopage de toutes ces temporalités finalement, un virus qui survient, la médecine qui travaille en direct, en temps réel on pourrait dire, la politique qui nous frappe aussi par des mesures chocs, et puis derrière ce temps de l'anthropocène, c'est-à-dire d'une sorte de nouvelle ère historique où l'humain influence la planète, mais qui lui aussi est d'abord un choc, que si on arrivait à les articuler peut-être par un récit, on redonnerait du sens, mais quand ils se télescopent tous ensemble, c'est plutôt des désorientations qui se cumulent plutôt qu'une orientation qui se construit. Est-ce que c'est ça que vous êtes en train de souligner?
Oui, c'est ça que je suis en train de souligner. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer de les articuler, mais je pense que, alors, au jour d'aujourd'hui, nous en sommes loin.
Je pense que justement, peut-être que dans un deuxième temps ou dans le cours de cette discussion, nous allons essayer de voir des réponses à ce diagnostic critique et peut-être la réponse de l'historien qui peut reconstruire un cadre ou de la philosophe. Catherine Malabou, est-ce que pour vous, la question du temps, vous l'aviez abordée justement sur cette expérience de la sidération cérébrale, cette sorte de perte du rapport au sens du moment, au sens du temps, au passé, à l'avenir et au présent. Est-ce que cette question du temps vous paraît très importante pour penser notre temps depuis le vivant? Est-ce que pour vous, la dimension temporelle de l'expérience est centrale?
Elle est complètement centrale. Moi, j'ai travaillé sur le temps depuis toujours, puisque j'ai fait ma thèse sur le temps chez Hegel. Donc, c'est une question qui m'a toujours... qui m'accompagne... Enfin, c'est la question pour moi philosophique. Alors, si on isole un moment de cette grande problématique qui est donc l'aujourd'hui, je dirais que, alors ça, c'est une question que j'aimerais bien poser à François Hartog justement, à savoir est-ce qu'on n'est pas en train quand même de voir l'éclosion d'un temps qui ne serait plus purement historique, je pense aux articles de Chakrabarty sur l'Anthropocène, dans lesquels il dit.
Dipesh Chakrabarty, de vous interrompre, qui est un grand historien indien et américain qui enseigne à l'Université de Chicago, où il est collègue justement, je crois, de François Hartog, et justement partage cette idée d'une histoire de la Terre,
D'une histoire de la Terre où finalement la conscience historique, enfin ce qu'on a appelé longtemps la conscience historique, ne serait plus à même précisément d'articuler tout ce que vous dites, c'est-à-dire les temps différents, etc. Et est-ce qu'il ne faut pas, si on veut trouver un peu un sens à tout ça, élaborer un sens du temps qui ne soit plus assimilable entièrement à la conscience historique?
Alors François Hartog, si vous voulez essayer de répondre dans un premier temps à cette question qui nous replonge dans la nature de l'humain aujourd'hui, finalement.
Voilà, au sens traditionnel du terme, quoi.
François Hartog.
Petite question, réponse en deux minutes.
On pourra développer encore un petit peu, malgré tout.
Mais oui, je suis absolument de l'avis que, d'accord sur ce diagnostic, là aussi, ce qu'on appelait la conscience historique, que moi j'appelle le concept moderne d'histoire, n'est plus opératoire. On a bien vu que depuis une cinquantaine d'années, cette histoire, ce concept d'histoire n'arrivait plus à avoir prise justement sur le présent, vous préférez parler d'aujourd'hui, mais sur ce présent présentiste, et qu'il fallait donc déjà faire face à une désorientation considérable, puisque ce temps, enfin ce concept moderne d'histoire, il s'est développé entre le 18e et la seconde moitié du 20e siècle.
Et vous le définissez, François Hartog, comment? Par la projection dans l'avenir, par l'idée que l'humanité peut s'émanciper de la nature et construire son propre futur.
Voilà, c'est la marche de l'humanité portée par le progrès. Et c'est tous les grands noms du 19e siècle, que ce soit Michelet ou Ernest Renan, dans des genres différents. Et cette perspective d'une humanité progressant, évidemment, est devenue intenable après la Seconde Guerre mondiale. Il a fallu beaucoup de temps pour nos sociétés européennes d'en prendre pleinement conscience, mais ce que nous avons vécu justement entre les années 60 et les années 90, c'est l'effritement de ce concept moderne d'histoire et ce temps que j'ai appelé présentiste, parce que tout d'un coup, il semblait ne plus y avoir que du présent, qu'un temps qui justement n'avait plus cette perspective d'ouverture sur un futur et qui ne pouvait pas non plus convoquer le passé, pour tout un tas de raisons liées à ce qui s'est passé au XXe siècle, convoquer le passé pour penser le présent.
Mais alors, ce qui est facile... Pardon.
Et alors, je termine
vous
juste.
En prie, je vous en prie.
Et puisque Chakrabarty a été mentionné à très juste titre, la prise de conscience, justement, de ce qu'on appelle l'Anthropocène, pose en des termes inédits la question d'une condition historique. Est-ce qu'on peut concevoir une condition historique ou une nouvelle condition historique? Chacun parti parle de conditions humaines, de nouvelles conditions historiques, dans cette, avec le surgissement récent dans nos consciences au moins, depuis même pas le début du XXIe siècle, c'est plutôt les années 2010, de ce temps nouveau qui amène à montrer la radicale insuffisance de ce concept d'histoire sur lequel le monde moderne, l'Europe coloniale, l'Europe des empires, etc., a vécu pendant un peu moins de deux siècles.
Alors, je ne sais pas si nous vivons un nouveau moment historique, et si on peut encore l'appeler historique, ou bien si c'est d'une certaine façon la fin du rapport de l'homme à l'histoire. Mais en tout cas, François Hartog, vous en retracez très bien l'histoire, puisque même ce changement de rapport à l'histoire a une histoire, et que vous remettez la catastrophe finalement du Covid ou les catastrophes climatiques aussi et naturelles dans la lignée de la Seconde Guerre mondiale. Nous allons revenir justement sur ce paradoxe que peut-être l'égarement dans le temps a lui-même une histoire, une temporalité, l'incertitude. Nous y reviendrons après une première coupure musicale, celle que nous a proposée Catherine Malabou, qui enseigne, je n'ai pas encore précisé, dans différents endroits, mais aussi à Londres, en Angleterre, et qui nous a donc proposé London Calling.
Through the faraway towns, now war is declared and battle come down. London calling to the underworld, come out of the cupboard, you boys and girls. London calling, now don't look to us, phony Beatlemania is putting the dust. London calling, see we ain't got no swing, except for the rain and the crunch of things. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going thin. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river, to the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling, to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no.
France Culture,
à présent,
Frédéric Worms.
À présent, l'incertitude, comment vivre dans l'incertitude qui caractérise paradoxalement plus que jamais notre présent. Nous en parlons ce soir avec François Hartog, historien, et Catherine Malabou, philosophe. Catherine Malabou, vous nous avez proposé London Calling, un appel de Londres. Je ne pense pas à un appel du historique pendant la Seconde Guerre mondiale qu'évoquait François Hartog il y a un instant pour nous permettre de penser le présent, y compris celui du Covid. Mais malgré tout, pour reprendre cette discussion avec nos expériences personnelles, l'incertitude, Catherine Malabou, vous qui enseignez de manière internationale, dans plusieurs lieux, c'est aussi vos déplacements concrets, votre vie concrète. Est-ce que cette incertitude maintenant de nos vies, pour vous, elle fait partie aussi du moment présent? Est-ce qu'il faut l'inscrire dans cette histoire, dans ce sens que nous essayons de construire aujourd'hui, Catherine Malabou?
Bien sûr, puisqu'on ne peut plus... en gros, on ne peut plus rien faire. Tout est suspendu, et c'est cette incertitude dont vous parlez. Bon, bien sûr, elle concerne le temps, mais elle concerne aussi l'espace. C'est-à-dire que c'est la géographie aussi qui est en train de changer, puisque on ne peut plus voyager. Et ça, c'est quelque chose, je crois, qu'il faudrait aussi penser. C'est-à-dire une sorte de restriction spatiale qui confère à cette suspension temporelle une dimension tout à fait inédite. Parce que pour revenir à l'histoire là et à l'anthropocène dont on parlait,
ouais.
Et vous l'avez dit vous-même, Frédéric, l'anthropocène, c'est un temps dans lequel l'homme est clairement reconnu comme force naturelle, comme une puissance naturelle qui a dévasté la Terre et ouvert une nouvelle ère. Mais une question aussi que pose Chakrabarty, c'est comment peut-on se représenter comme une force naturelle. Comment est-ce que l'homme peut se représenter lui-même comme un glacier ou un... C'est-à-dire, il faudrait développer une sorte de conscience géographique du temps. La crise écologique nous demande de nous, oui, de nous figurer nous-mêmes comme une force de la nature. Donc, d'avoir cette espèce de conscience géographique, géologique, dit Jacques Rabarty. Et en même temps, c'est très difficile à penser en ce moment, puisque précisément, la géographie se retire sous nos pieds.
Oui, mais alors, justement, Catherine Malabou, et on posera aussi la question à François Hartog dans un instant, vous évoquiez cette restriction des déplacements, ce repli, finalement, au moment même où Dipesh Chakrabarty et d'autres, dont François Hartog lui-même, construisent l'idée d'une histoire globale, d'un retour de l'histoire sur une dimension cosmique, finalement, une des marques de l'histoire globale, c'est aussi... c'est des difficultés. On parle d'histoire globale parce que les humains peuvent détruire la planète, pas seulement parce que c'est un point de vue englobant. Et donc finalement, est-ce qu'il ne faut pas, Catherine Malabou, sous le nom d'histoire globale, penser l'humain comme facteur naturel, mais quand même aussi politique, le monde à construire pour éviter la destruction du monde? Est-ce qu'il n'y a pas toujours, ce que vous disiez vous-même au début, une indiscernabilité ici du biologique et du politique? Sur le cerveau, vous avez toujours cherché à montrer que nous sommes des cerveaux, mais en même temps, du coup, avec nos cerveaux, nous pouvons agir sur nos cerveaux. De même, nous sommes terrestres, mais avec notre construction du monde, nous pouvons encore agir sur la Terre.
Évidemment, oui, bien sûr. Et cette incertitude dont vous parlez, en même temps, elle dégage aussi des certitudes, c'est bien clair. On voit ce qu'il faudrait faire. Le problème, c'est que on voit déjà toutes les oppositions. On voit déjà le risque d'un retour, si jamais on retourne un jour à la normale, on voit que tout risque de recommencer, c'est-à-dire la catastrophe climatique, toutes les choses qu'il ne faudrait pas reproduire, on a peur que justement elles se reproduisent. Mais encore une fois, on voit bien quand même dans cette incertitude elle-même ce qu'il faudrait faire. La décroissance, je lisais l'autre jour que depuis le confinement, on a gagné du temps par rapport à la crise écologique. On a racheté des temps de respiration sur Terre. Donc on voit bien sûr ce qu'il faudrait faire, bien sûr.
François Hartog, est-ce que vous-même, vous pensez que ce passage à l'histoire globale, à l'histoire de la Terre, que manifeste le virus, finalement, dans sa simultanéité transnationale, au fond, c'est un virus qu'on suit sur les écrans en Australie, en Argentine, en France, en Chine, que j'oubliais, alors que elle est évidemment un des points critiques de cette pandémie. Est-ce que vous pensez que cette simultanéité globale dessaisit l'humain, montre comment l'humain s'inscrit dans la Terre, avec cette difficulté à le penser, ou bien au contraire que la Terre, maintenant, dépend vraiment des actions humaines, y compris par les maladies?
Oui, je dirais les deux. D'un côté, comme le disait Catherine Malabou à l'instant, il est très difficile à l'espèce humaine de se représenter comme espèce et de se voir comme espèce. On ne peut pas se voir comme espèce humaine. Bon. Et c'est en tant qu'espèce humaine que nous sommes devenus une force géologique. Ça, c'est une chose. Et puis, il y a d'autre part l'humanité, les humains, qui se trouvent dans ces temporalités conflictuelles que nous évoquions en commençant, et qui sont toujours à l'œuvre.
Ces temporalités de la vie, de la médecine, de la politique,
De la politique, de la politique internationale, des empires, puisque nous sommes, c'est quand même assez frappant, dans un moment où on pensait que les empires avaient vécu, eh bien nous voyons des empires s'installer ou se reconstituer, ou des rêves d'empires se reconstituer, l'empire chinois, l'empire russe, l'empire turc. Et donc, c'est qui sont des mises en œuvre de temporalité conflictuelle, et l'articulation de cette dimension, disons politique, avec les humains comme espèce humaine est extrêmement difficile à concevoir.
Donc ce que vous êtes en train de dire, François Hartog, c'est que finalement peut-être ces replis politiques ou ces retours à des empires qui ont marqué un âge historique de l'humanité, est-ce que c'est pour vous une sorte de réponse des humains à la déstabilisation qu'induit le biologique, c'est-à-dire le fait de se représenter comme une espèce est si perturbant qu'on doit reconstruire des empires pour redonner une sorte d'orientation? Est-ce que c'est ça que vous êtes en train d'indiquer?
Non, enfin, peut-être qu'il y a cet élément, peut-être que ça joue un rôle. Mais je dirais liée à la politique internationale, oui, que ces empires, ces volontés de reconstitution d'empires, sont quand même liées à un contrat que nous avons tendance à ne pas voir dans le monde occidental, mais très présent en Asie, en particulier en Chine ou en Inde, mm-hmm, à savoir une promesse d'émancipation. Une promesse d'émancipation par l'augmentation du niveau de vie. Mm-hmm. Et on sait que dans les 20-30 dernières années, des centaines de millions de Chinois et d'Indiens sont sortis de la pauvreté. Et cette promesse d'émancipation en ce sens, par augmentation du niveau de vie, elle vient évidemment heurter de front, mm-hmm, ce que, comme le disait Catherine Malabou à l'instant, ce qu'il faudrait faire pour éviter une aggravation de la situation climatique, pour faire bref. Et ça, ce sont deux éléments avec lesquels qu'on n'arrive pas à contrôler. Vous n'allez pas contrôler Xi Jinping. Vous n'allez pas contrôler le Premier ministre indien.
Non, mais d'un autre côté, est-ce que ces hommes politiques ne pourraient pas aussi promettre une émancipation qui inclut la lutte contre des maux, M-A-U-X, hein, de l'humanité, mm-hmm, que sont ces maladies, les risques climatiques? Et est-ce que effectivement cette représentation de l'être humain comme vulnérable, fragile, ou bien s'émancipant, progressant, est-ce qu'elles sont nécessairement contradictoires, François Hartog, avant que Catherine Malabou nous le dise, oui, aussi de son côté?
On peut espérer que non, mais pour l'heure, ce n'est pas ce qu'on voit, et en particulier dans tous ces mouvements qu'on appelle populistes.
Catherine Malabou, ce diagnostic dont on voit bien la profondeur, que vous avez vous-même lancé il y a un instant et que François Hartog vient de reprendre, à savoir qu'il y a quelque chose de au cœur de la représentation que l'homme se fait de lui-même dans notre complexité du présent, la difficulté de se représenter comme vivant, comme cerveau, comme espèce, d'un côté, et la nécessité de se penser aussi comme être humain, s'émancipant, etc. Est-ce que pour vous, c'est aussi cela, là, finalement, le cœur de ce que nous vivons aujourd'hui? La pandémie vient faire éclater ça au grand jour, en quelque sorte. Cette dualité de l'humain et cette irreprésentabilité de l'humain comme vivant mortel.
Oui, tout à fait. Justement, je relisais les pages de Jean-François Lyotard sur l'irreprésentable. Mm-hmm. Il a écrit beaucoup là-dessus, c'est-à-dire effectivement l'impossibilité dans laquelle est l'homme, hein, pour aller vite, l'espèce humaine.
Disons l'être humain,
voir
l'espèce
elle-même.
Humaine.
Voilà.
Ce terme d'homme, on le sait bien. D'ailleurs, oui, vous-même, voilà, vous écrivez sur le plaisir féminin et sur le féminisme depuis longtemps.
Oui, l'espèce humaine. Et je pense que ça, c'est quelque chose aussi que Freud avait déjà dit. C'est-à-dire que dès que l'espèce humaine se voit elle-même, elle nie ce qu'elle voit. Hein. Mm-hmm. C'est un acte de dénégation. Moi, ce que je trouve le plus incroyable dans cette affaire, c'est que des présidents de pays extrêmement importants, comme le Brésil ou les États-Unis, etc., nient la situation, mm-hmm, arrivent à dénier, y compris la maladie elle-même, y compris le virus lui-même. Effectivement, la difficulté aujourd'hui pour dire ce qu'il faudrait faire, pour arriver à convaincre, c'est d'arriver à trouver un mode de discours qui permette en quelque sorte de répondre à la dénégation. Mmh. Parce que on arrive à un moment où on a beau mettre les faits sur la table, on a beau dire l'évidence, il y a toujours la possibilité de nier cette évidence. Donc comment faire? Comment trouver un nouveau discours, effectivement? Comment élaborer un nouveau discours? qui puisse s'accommoder de cette dénégation.
Mais alors, vous-même, Catherine Malabou, de ce point de vue, vous aviez fait une typologie, finalement, si je résume, hein, des usages possibles de la biologie. D'un côté, il y a le déni, nous ne sommes pas des vivants, nous sommes des esprits, ou nous sommes des psychés, etc., indépendantes du vivant. D'un autre côté, il y avait aussi une critique du pouvoir médical, au fond, une critique aussi de la façon dont le biologique peut venir nous empêcher de vivre ou nous contrôler. Et vous aviez essayé de construire plutôt, et je pense que vous essayez toujours, disons l'idée, nous sommes des vivants, il doit bien y avoir aussi un usage humain, actif, émancipateur de la biologie elle-même. On n'est pas condamné à sous prétexte que la biologie nous impose sa condition, à la subir sans l'orienter justement.
Bien sûr, mais moi je trouve que toutes les attaques contre la biologie, j'ai beaucoup de respect pour Foucault, mais enfin parfois les analyses de la biopolitique sont vraiment unilatérales. Enfin, toutes ces attaques contre la biologie me paraissent totalement infondées. Qu'il puisse y avoir un mauvais usage de la biologie, on le sait, hein, le biologisme, etc., etc. Mais fondamentalement, le problème c'est pas la biologie, le problème c'est la politique, c'est-à-dire la manière dont la biologie est utilisée. Et souvent sans l'avis des biologistes eux-mêmes. Par exemple, aujourd'hui, est-ce qu'on les entend, les biologistes ? Alors, on entend bien sûr, les médecins officiels, mais est-ce qu'on entend les gens qui travaillent sur le vaccin ? Est-ce qu'on entend les gens qui se demandent si ce vaccin est épigénétique ou s'il a des causes génétiques ? Est-ce qu'on entend tout ça ?
Malabou, est-ce qu'on n'a pas, dans ce moment présent et ces incertitudes, est-ce qu'il n'y a pas eu aussi une forme d'épistémologie en direct ? Pour la première fois aussi dans l'histoire de l'humanité, toutes les chaînes du monde d'information évoquent les débats entre des biologistes et des médecins, notamment en France d'ailleurs, des controverses très, très violentes, très vives.
Les controverses, elles sont sur les médicaments, mais je trouve qu'elles ne sont pas tellement sur le rapport entre ce virus et nos modes de vie, la manière dont il pénètre dans nos corps, personnellement, je n'ai pas trop entendu ça. J'ai plutôt entendu des débats sur la chloroquine, etc. Voilà.
Donc ce que vous souhaiteriez finalement, et je pense que c'est une suggestion très, très profonde, très importante, ce que vous souhaiteriez c'est qu'on parle de tous les aspects de la façon dont le virus, notre condition de vivant, et dont le virus vient révéler et perturber en même temps tous les aspects de notre vie, et pas se centrer sur des aspects technoscientifiques étroits.
Sur des aspects technoscientifiques et des querelles de laboratoire. Je pense que si j'ai bien compris ce qui se passe, ce virus est en train d'écrire, de rassembler en lui toute l'histoire de notre biologie. Mmh. Le virus est en train de nous révéler les vraies querelles qui existent entre la génétique et l'épigénétique. Mais ça, personne n'en parle.
Alors la génétique et l'épigénétique, c'est-à-dire au fond, est-ce que nous avons une nature fixe déterminée par des gènes, ou bien est-ce que dans l'histoire des vivants humains, alors ce serait un autre sens du mot histoire, est-ce qu'il y a une transformation du vivant, des événements qui peuvent survenir et transformer notre génome ? Aujourd'hui, on est passé d'un tout génétique à aussi une ouverture historique du vivant lui-même.
Voilà, c'est-à-dire que est-ce que ce virus est lié à nos modes de vie ? Ou est-ce qu'il a un ancrage plus profond, comme vous venez de le dire, dans la génétique ? Pourquoi certaines personnes sont plus malades que d'autres ? Évidemment, ce sont des débats très techniques, mais je pense que si on savait les expliquer de façon claire, je pense que le débat serait beaucoup plus intéressant que de savoir si le professeur Raoult est un imposteur ou non. Je trouve que les vrais enjeux biologiques ne sont pas posés.
Alors François Hartog, qu'est-ce que vous pensez de cette suggestion selon laquelle finalement revenir au vivant, c'est aussi intégrer l'histoire humaine dans le vivant, le fait que nos modes de vie, effectivement, on dit que la déforestation en Chine a aussi fait sortir les chauves-souris de leur réservoir naturel, au fond. Est-ce que c'est pas justement une manière de aussi paradoxalement d'introduire l'histoire humaine dans le vivant ? Est-ce que ça nous permettrait pas de reconstruire ce récit où s'intriquent le vivant et l'humain ? François Hartog.
Si, je pense que ce type de démarche mérite d'être non seulement développé, mais d'être travaillé. Parce que vous évoquiez tout à l'heure l'histoire globale.
Allez.
On a beaucoup parlé de l'histoire globale au cours des 20 dernières années. Surtout pour dire qu'en France, on savait pas la faire, qu'elle était faite ailleurs, que la France, comme toujours, était en retard, etc. Mais cette histoire globale, telle qu'on l'a pratiquée, justement, elle ne tenait pas compte de cela, de ces dimensions-là. C'était une histoire qui renvoyait encore au fond, à la condition historique dont nous évoquions, que nous évoquions tout à l'heure, cette condition historique qui ne peut plus être maintenue telle qu'on l'a construite au cours des siècles précédents.
C'était une histoire globale humaine au sens classique du terme.
Voilà. Et c'est pas ça qu'il faut, c'est justement parce que cette histoire, si on arrive à la construire, si on arrive à forger un nouveau concept d'histoire, à supposer qu'il faille l'appeler histoire, il devra nécessairement tenir compte non seulement de ces dimensions. Donc c'est pas seulement de faire une histoire de la médecine, une histoire des maladies, une histoire des épidémies, c'est pas ça, mais aller beaucoup plus profond, comme vous l'indiquiez à l'instant, et qui puisse articuler ce que nous évoquions d'un mot, c'est-à-dire toute cette dimension de l'anthropocène. Et là, alors on peut avoir à ce moment-là une histoire globale en un sens différent, beaucoup plus compréhensif que cette histoire globale qu'on a construite au cours des 25 dernières années, qui était une manière aussi de se débarrasser, et ça c'était évidemment une bonne chose, de se débarrasser des histoires impériales et des histoires coloniales.
Donc on voit comment un peu d'incertitude médicale peut nous renvoyer à une autre conception vitale aussi de l'histoire, une transformation de notre rapport au monde. Pour penser cette transformation, François Hartog, vous nous avez proposé vous-même, j'allais dire à la fois un moment de musique et puis un texte qui l'accompagnera ensuite, que je lirai juste après, mais d'abord un moment de musique et puis le texte contemporain, c'est Miles Davis. À présent,
Frédéric Worms.
À présent, l'incertitude, s'orienter dans l'incertitude, une discussion avec François Hartog, historien, dont le livre Chronos paraît bientôt chez Gallimard, et avec Catherine Malabou, philosophe, dont le livre sur le plaisir effacé paraîtra bientôt chez Rivage. Nous écoutons en ce moment, sur une suggestion de François Hartog, le All Blues de Miles Davis, et un auteur contemporain a aussi été évoqué dans la préparation de cette émission, contemporain de Miles Davis par François Hartog, un texte de Jean-Paul Sartre tiré d'un roman, Le Sursis, un roman où Sartre évoque comment finalement, alors qu'on déjà à l'époque, les humains se pensaient au-dessus de l'histoire, pensaient qu'ils pouvaient la dominer, finalement l'histoire leur est retombée dessus. Je cite ce passage de Sartre. Le survol qu'aimait tant à pratiquer nos prédécesseurs était devenu impossible. Il y avait une aventure collective qui se dessinait dans l'avenir et qui serait notre aventure. Quelque chose nous attendait dans l'ombre future, quelque chose qui nous révélerait à nous-mêmes. Le secret de nos gestes et de nos plus intimes conseils résidait en avant de nous, dans la catastrophe à laquelle nos noms seraient attachés. L'historicité reflua sur nous. » François Hartog, je viens de citer ce texte de Jean-Paul Sartre que vous avez choisi, qui fait partie dans son roman des débuts de la Seconde Guerre mondiale, de la crise de Munich, juste avant la guerre. Est-ce que vous pensez, puisque vous avez choisi ce texte, que nous vivons le même genre d'expérience presque 70 ans après, plus de 70 ans après, au sens où nous avions cru survoler l'histoire, qu'elle avait un sens tout écrit, et tout à coup nous y voilà retombés, mais alors retombés dans le chaos, mais dans la catastrophe, puisqu'il dit catastrophe. Mais l'important pour Sartre, on a l'impression, c'est que finalement, dans cette catastrophe, on puisse agir soi-même. C'est quand même l'existentialisme, la liberté. Et finalement, je pense, dans ce dernier temps de cette conversation, j'aimerais qu'avec Catherine Malabou et vous, on puisse dessiner des chemins, les chemins de la liberté, comme dit Sartre, justement. Et ce texte de Sartre, au fond, il dit, c'est la catastrophe, mais c'est notre catastrophe. Est-ce que vous pensez qu'on peut encore s'approprier l'histoire de notre temps ?
Oui, de toute façon, je pense qu'on n'a pas le choix, d'une certaine manière, et qu'il faut essayer d'y travailler. Mmh. Mais la différence, alors j'ai repensé à ces quelques lignes de Sartre, puisque le roman, c'est le sursis.
Le sursis.
Et alors, la question, est-ce que nous sommes, nous, aussi dans une situation de sursis ?
En sursis,
oui. Il a écrit le sursis pendant la guerre, il l'a publié en 1945, et il qualifie la crise de Munich, la semaine de la crise de Munich, comme justement un sursis. Mmh. Est-ce que c'était la paix ou est-ce que c'était la guerre ? Bien sûr, c'était la guerre, et le choix d'appeler ça le sursis était tout à fait clair. Mais là où la différence me paraît importante avec Sartre, c'est que cette phrase qu'on pourrait reprendre aujourd'hui, sauf à la fin, le dernier terme, le dernier membre de phrase, l'historicité reflua sur nous.
Oui.
Eh bien, justement, ce n'est pas l'historicité qui reflue sur nous aujourd'hui. Pour Sartre, ça correspond à sa découverte de l'histoire, qu'il ignorait jusqu'alors, sa découverte de l'histoire, son choix de l'histoire, son choix de faire l'histoire, alors que nous pourrions reprendre cette phrase, mais ce n'est pas l'historicité qui reflue sur nous, c'est une catastrophe qu'il faut qualifier autrement.
Alors vous diriez la naturalité reflue sur nous aujourd'hui ?
Oui, mais ce n'est pas seulement cela, parce qu'il y a aussi, puisque nous l'avons dit tout au long de cette émission, les deux, la dimension politique et la dimension espèce humaine comme force géologique, et l'une ne remplace pas l'autre, l'une n'est pas soluble dans l'autre, mais tenir les deux ensemble est tout le problème.
Mais François Hartog, la notion d'historicité, l'historicité reflua sur nous. Finalement, pour Sartre, c'est avant tout une catégorie existentielle, c'est-à-dire c'est le sentiment que nous avons, que notre vie s'inscrit dans le temps, peut créer de l'avant, de l'après, que nos actes ont un effet sur le monde, finalement. Et au-delà de la condition historique moderne, est-ce que nous avons totalement renoncé ? Est-ce qu'on peut abandonner complètement ce sentiment de se situer dans le temps, même dans ces changements que nous vivons ?
Non, surtout pas.
Ben oui.
Je dirais surtout pas.
Ben oui.
Mais on ne peut plus, ce ne sont plus les mêmes chemins que l'on peut emprunter. Mm-hmm. Et il faut essayer d'en frayer de nouveau. Alors, réfléchir sur le temps est une voie non pas royale, mais est un moyen au moins de mesurer les enjeux ou les écarts qu'il y a entre ces différentes temporalités. Et quand au tout début nous évoquions le présent et vous avez évoqué Foucault, Foucault a toujours dit maintes et maintes fois que la tâche du philosophe c'était de diagnostiquer le présent. Bon, c'est sa formule. Diagnostiquer le présent, eh bien, je crois que pour notre part, et chacun à sa place et en fonction de ses connaissances, de son expérience, nous avons aussi à diagnostiquer le présent.
Mais alors justement, Catherine Malabou, vous-même, vous aviez proposé ce texte de Michel Foucault qui fait contrepoint à celui de Sartre que François Hartog vient d'évoquer, qui évoque les Lumières, le texte de Kant sur les Lumières, et où il dit qu'il ne cherche plus à comprendre le présent, je cite Foucault, à partir d'une totalité ou d'un achèvement futur, il cherche une différence. Quelle différence aujourd'hui introduit-il par rapport à hier? Et vous-même, Catherine Malabou, vous aviez cité ce texte, j'y voyais une arrière-pensée au fond sur les lumières. Aujourd'hui, on vit aussi une crise des lumières. Et je crois que vous placez aussi cette condition historique, cette ressource, dans un certain rapport au savoir, un certain rapport quand même à la philosophie, à la science, pour répondre aux défis du présent, à cette nouvelle condition. Bien sûr, elle est nouvelle, elle est un mélange de nature et de politique, mais une des ressources des humains, c'est qu'on peut quand même en savoir quelque chose.
Oui, alors effectivement, comme disait François Hartog, je crois que si on définit l'histoire comme on pouvait la définir au temps des Lumières, ça ne sera pas possible. C'est-à-dire, effectivement, on rompt avec cette idée de progrès que Foucault n'interrogeait pas encore suffisamment comme on peut l'interroger aujourd'hui, parce qu'il n'était pas soumis au même problème. En revanche, il dit quelque chose qui me semble tout à fait pertinent aujourd'hui, c'est que si l'on veut vraiment penser le présent, sans s'appuyer, comme vous venez de le dire, sur des totalités passées, alors ça veut dire que personne ne pourra le faire à notre place. Mmh. Il y a dans le texte de Foucault cette injonction à penser par nous-mêmes. Hein, il fait référence à Kant.
Comme oui, il définit les lumières par là. Ose penser par toi-même.
Ose penser par toi-même, c'est-à-dire sortons de l'âge de la minorité pour rentrer dans celui de la majorité. Ça, c'est l'expression de Kant. Et Foucault dit, ça veut dire que le problème du présent, c'est que il nous fragilise aussi dans notre pensée, que personne ne pourra nous supporter, nous soutenir. On a un présent, mais plus de présence, d'une certaine façon. Et ça, je pense que c'est encore tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'il faut risquer. Il faut risquer d'élaborer un sens de ce qui nous arrive aujourd'hui.
Et vous pensez, Catherine Malabou, donc c'est évidemment quelque chose d'essentiel, comme le pense François Hartog aussi, c'est-à-dire s'orienter dans le temps est une question essentielle pour les humains, pour vivre et pour vivre libre. Et donc vous pensez aussi qu'il ne faut pas se laisser déposséder finalement de ce sens, que personne ne peut plus aujourd'hui l'imposer du dessus, pas même les philosophes. Au fond, c'est aux citoyens, aux vivants humains, dans leurs crises, dans leurs enjeux, dans leurs réponses. C'est à nous collectivement de construire aussi ce sens.
Oui, je pense que la question est totalement horizontale, si je puis dire. C'est-à-dire que aucune instance supérieure, aucun pouvoir, aucune théorie, aucun dogme ne peut nous aider là-dessus. Je pense que la solution, effectivement, elle est à prendre collectivement et horizontalement, oui.
Et aussi, peut-être, Catherine Malabou, une chose très importante dans votre travail de philosophe, c'est aussi de partir du négatif, finalement, partir des épreuves, partir des maladies, partir des crises. Pour vous, ça n'est pas forcément négatif de partir du négatif, je veux dire.
Absolument. Non, mais quand vous dites, effectivement, on peut prendre en main cette nouvelle histoire, oui, mais cet optimisme-là, en effet, il faut nécessairement le teinter d'un certain sens de la contradiction, des épreuves, du déchirement, j'appellerais ça de la dialectique, évidemment, bien sûr.
Je ne sais pas s'il faut appeler ça dialectique, mais en tout cas, disons que y a des... lutter contre quelque chose, c'est encore une manière de donner sens à sa vie.
Absolument, absolument. Bien sûr.
François Hartog, vous pensez vous-même que votre travail sur le temps, y compris le travail sur de long terme, j'allais dire, sur la longue histoire des régimes d'historicité, la façon dont l'homme s'est pensé dans le temps, qui est aussi la toile de fond de votre prochain livre, est-ce que vous lui donnez une perspective politique, une perspective pratique finalement? Comment les hommes peuvent-ils se saisir aujourd'hui de leur temps? Pour ça, il faut aussi qu'ils comprennent qu'il n'y a pas de manière absolue pour l'humain d'être dans le temps, c'est variable selon les époques, et l'historien peut l'aider.
Oui, oui. Enfin, l'historien peut l'aider, il peut au moins proposer quelque chose, et c'est repris ou ça n'est pas repris, puisque l'historien ne peut rien imposer, et encore moins aujourd'hui que peut-être au 19e ou une partie du 20e siècle, où l'histoire parlée par sa bouche. Oui. Ça n'est plus le cas aujourd'hui, puisque précisément, on ne sait pas où est l'histoire, et on ne sait pas qui peut la dire.
Donc l'historien ne sera plus un prophète?
Non, non. L'historien ne sera plus un prophète, les prophètes, ça a été les historiens, les grands historiens du 19e siècle. Mais il y a tout de même quelque chose, un rapport qui demeure, à mon avis, entre l'historien, mais aussi bien le philosophe et le prophète, je veux dire le prophète au sens des grands prophètes bibliques, qui sont, et j'aime beaucoup cette expression, qui sont des sentinelles de l'imminence. Mmh. Bon. Et les prophètes sont des sentinelles. Les grands prophètes étaient des sentinelles de l'imminence. Alors évidemment,
magnifique expression, en effet. Hein.
Eux se plaçaient dans une perspective, évidemment, d'eschatologie. Nous pouvons essayer d'être des sentinelles de l'imminence dans l'immanence. Voilà. Mmh.
Mmh. Mais c'est une magnifique formule. Catherine Malabou, est-ce que vous la reprendriez à votre compte? Je me souviens aussi d'une formule de Michael Walzer qui définit les prophètes bibliques comme des critiques sociaux, comme des gens qui pointent les défauts et non pas un avenir radieux, mais avant tout des fautes des humains pour les critiquer. Est-ce que vous reprendriez cette fonction, j'allais dire, humainement prophétique des philosophes?
Moi, j'aime beaucoup cette formule l'imminence dans l'immanence. Je trouve que c'est très, très juste. Donc, je ne trouverai pas mieux pour l'instant. Non, c'est très bien. C'est tout à fait juste.
C'est cette horizontalité dont vous parliez. C'est l'horizontalité
oui,
du temps. C'est l'imminence de ce qui va arriver. C'est l'incertitude, finalement, voilà, comme ouverture.
Voilà, et cette incapacité à se placer au-dessus, quoi. C'est vraiment être dans. Mmh. Être dans. Et en même temps, essayer de voir au-delà, mais sans jamais sortir du fait d'appartenir à ce qui arrive, quoi.
Peut-être on serait passé, François Hartog, du présentisme à l'imminence, du présent à l'imminent, et peut-être que finalement, c'est plus dangereux, mais peut-être plus riche aussi, peut-être plus riche de sens.
Oui, alors est-ce qu'on est passé de je ne sais pas, mais on a en tout cas bien pris les mesures de des impasses du présentisme. Mmh. Et que être dans cette attitude de guetteur, au fond, de l'imminence, amène à non pas rouvrir une espèce de futur radieux, mais à ne pas se laisser enfermer dans un présent qui ne peut plus se penser au-delà de lui-même.
Merci infiniment à vous deux d'être ces guetteurs et guetteuses de l'imminence et de l'avoir partagé cette veille avec nous ce soir. À présent, s'orienter dans l'incertitude. C'était une discussion avec Catherine Malabou, avec François Hartog, avec, grâce surtout aussi à Éric Boisset, Sandrine Chaperon, Catherine Donnet, Anne-Pascale Devine, Frédéric Worms. À vendredi prochain, 21h, pour continuer à présent.